Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Mais bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, soutient que le morcellement des terres agricoles que propose la loi 103 ne favorisera pas l'étalement urbain comme le craint l'Union des producteurs agricoles, entre autres. Par ailleurs, il explique le soutien de 3 millions annoncé récemment aux banques alimentaires. Il refuse de dire s'il est favorable à l'application de la loi 101 au cégep, comme certaines rumeurs le veulent. Mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Avant toute chose, j'ai un extrait à te faire écouter, un extrait des débats à l'Assemblée nationale. C'était mercredi dernier.
Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Jean Lesage, le député de Bonaventure et le député de Rimouski, la motion suivante, que l'Assemblée nationale félicite la Barbade pour avoir abandonné le régime politique monarchiste hérité du colonialisme britannique et adopté le républicanisme.
Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, M. Leader du gouvernement?
Pas de consentement,
M. le Président. Pardon, M. le Président?
Pas de consentement.
Pas de consentement.
Alors, on a entendu successivement Joël Arsenault, qui est chef parlementaire du Parti québécois, qui a déposé sa motion, puis Simon-Jolin Barrette, qui a dit « pas de consentement ».
Tout un dilemme, hein? La courtoisie, la diplomatie voudrait que l'on félicite la Barbade, qui fait un choix démocratique qui est le sien.
Oui.
Et en même temps, ben, il semble y avoir des responsables politiques qui, peut-être par loyalisme ou peut-être par refus de s'engager dans ce débat-là, refuse de formuler de telles félicitations. Alors, grosso modo, c'est un dossier qui était dans l'air depuis quand même déjà un bon moment.
Ben oui.
La Barbade, l'un des 16 royaumes du Commonwealth, n'est plus. Toujours membre du Commonwealth par ailleurs, comme l'Inde ou comme d'autres républiques membres de cette association.
Son chef d'État n'est plus la reine.
C'est ça, exactement. Donc maintenant, ils avaient l'équivalent d'un gouverneur général qui était nommé par la reine pour représenter la reine. Au fond, il change très, très peu de choses. Hein. La gouverneure générale en question, Sandra Mason, elle devient la présidente de la République avec les mêmes pouvoirs. Et en vérité, elle est désormais élue indirectement par un vote des deux chambres. Donc, le rôle du chef de l'État dans un régime parlementaire, c'est d'arbitrer, vérifier si la confiance est au rendez-vous, s'il faut dissoudre, si les relations entre l'exécutif et le législatif sont au cœur de son rôle officiel.
C'est intéressant,
et,
ça.
Et donc, on maintient cette forme-là. On n'engage pas le grand débat sur une fois que l'on abolit la monarchie, devrions-nous passer à un système présidentiel à l'américaine? Et tout ça, on garde une forme de statu quo, réforme très ciblée, qui a été menée à bien notamment pour deux raisons. D'abord, une procédurale. La Barbade, c'est comme le Royaume-Uni. Donc, ils n'ont pas de loi au-dessus des lois. Il n'y a pas de constitution formelle. Et donc, ça veut dire que une simple loi du Parlement, ça serait la même chose au Royaume-Uni le jour où ils vont passer à l'action. Donc, une simple loi du Parlement de la Barbade a permis l'abolition de la monarchie. Donc, procéduralement, moins compliqué que de demander l'accord de toutes les provinces. Et l'autre chose, ben, c'est le contexte favorable. La Barbade a été un point tournant dans la traite des esclaves noirs. Et donc, toute cette prise de conscience de l'importance de la lutte contre la discrimination, ouais. Ici, ailleurs, notamment aux États-Unis, a percolé jusqu'à la Barbade. Et donc, le fait que la couronne britannique soit associée profondément dans l'histoire de la Barbade à cette traite des esclaves a créé le contexte politique favorable à l'abolition. Et c'est fascinant de voir que pendant qu'à la Chambre des communes à Ottawa, on a des députés conservateurs qui refusent de débattre d'une simple motion pour féliciter et chantent le « God save the Queen ».
C'est Stéphane Bergeron, hein, du Bloc québécois, qui avait déposé cette motion.
Je crois. Pendant que le leader parlementaire de la CAQ refuse de débattre de la même motion à Québec, mais qu'est-ce qu'est-ce que fait les autorités britanniques? Ben, ils envoient, non seulement ils félicitent, mais ils envoient même le prince Charles, hein, le prochain roi.
Il était là!
Il était sur place pour offrir ses meilleurs vœux. Donc, on voit, c'est comme si le Canada est plus loyaliste, plus monarchiste que le Royaume-Uni, en refusant de formuler des félicitations, alors que le prince Charles, lui, il est là, il est présent, il partage ses bons sentiments. Quelle leçon en tirer?
C'est étonnant de la part de la coalition Unir Québec, quand même, qui avait inscrit l'abolition du lieutenant-gouverneur dans un de ses programmes. Là. C'était le nouveau projet pour les nationalistes de 2015.
La CAQ a une position très ambiguë sur le front de la monarchie. On parle souvent de cet aspect-là parce que le mot « abolition du lieutenant-gouverneur » figurait dans son programme. Comme si, parce que ça figure, ça veut dire qu'ils sont profondément favorables à cette proposition. Mmh. Je pense qu'il va falloir peut-être envisager de lire autrement cette partie du programme de la CAQ. Le programme nationaliste de la CAQ, c'était un programme qui visait à dire sur le front constitutionnel, il y a ce qui est facile puis ce qui est difficile. Et le fameux exemple de l'abolition du LG, c'est l'exemple qui est donné pour dire, ben attention, là, il y a certaines choses qui sont vraiment très peu probables. Rêvez pas en couleur. Ça serait étonnant qu'on aille là parce que ça existe.
C'est vrai qu'il y a une gradation comme celle-là.
Et donc, il jouait beaucoup sur la gradation des difficultés. Puis l'exemple, le Graal impossible à atteindre, c'était le LG. Donc, là où tout le monde a vu un engagement à abolir la monarchie, il y a peut-être plutôt un appel au réalisme. Ils ont adopté une loi sur la dévolution l'an passé pour limiter les effets pervers liés à la transition à venir, hein, quand Charles va prendre la succession d'Élisabeth II.
Va décéder. Oui.
Exactement. Mais cette loi était très ciblée, puis elle était rédigée de manière à éviter tout débat sur la nature profonde de nos institutions. Là, on refuse de féliciter la Barbade. J'ai l'impression que la coalition à venir Québec va être obligé de préciser sa position sur la monarchie. Surtout que c'est un parti qui aime ça être proche des sondages, de ce que la population veut, être proche de la majorité. Ben, quand tu as 70% des Québécois qui sont prêts à abolir la monarchie et qu'une simple résolution parlementaire crée de l'embarras, là, il y a là un couac, un décalage qu'il va falloir approfondir. Et moi, le dossier qui m'intéresse le plus, c'est le choix du prochain lieutenant-gouverneur sur le front de la monarchie. Il est en place depuis 2015. Donc là, bientôt, on est dans le 6-7 ans. J'imagine que son règne, entre guillemets, ne dépassera pas le 8 ans.
Monsieur Doyon.
Monsieur Michel Doyon, qui avait remplacé, dans des circonstances difficiles...
Lise Thibault.
L'affaire Thibault, exactement. Et donc, le problème qui va se poser, c'est que est-ce que la coalition Avenir Québec, qui se dit profondément autonomiste et nationaliste, va laisser Ottawa choisir notre gouverneur, notre chef d'État, notre représentant de la couronne au niveau dans l'ordre juridique provincial. Donc, est-ce qu'on va faire comme d'habitude puis laisser Ottawa nous imposer son candidat ou on va assumer un choix, on va imposer notre candidat à l'avance, le faire approuver par l'Assemblée nationale et forcer Ottawa à accepter de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'au Québec, dans nos institutions, c'est pas à Ottawa de décider. On n'accepterait pas aux États-Unis que le gouverneur de New York soit choisi par le président américain.
Non.
Ben, au même titre que le fédéralisme commande que le Québec choisisse véritablement son chef d'État. Il s'agit pas de modifier le texte de la Constitution ici. Il s'agit simplement sur le front politique d'exprimer un choix qui ensuite va s'imposer à Ottawa. Et officiellement, le pouvoir resterait à Ottawa, mais politiquement, il faudrait théâtraliser le fait que ce choix, il est exercé ici.
Sur certains aspects, la coalition Unir Québec est audacieuse. On pense à la modification constitutionnelle incluse dans le projet de loi 96. Or, il semble que ça inspire d'autres provinces.
Saskatchewan
veut comme ça modifier sa constitution de façon unilatérale.
On dit que c'est impossible de modifier la constitution du Canada. Peut-être que ça l'est moins peut-être que c'est moins difficile quand ça ne concerne pas les demandes du Québec. Alors ici, on a la semaine dernière la Saskatchewan qui s'est lancer dans une réforme constitutionnelle.
Carrément.
Alors, c'est technique, je résume très rapidement. Au fond, le Canada a été fondé pour construire un chemin de fer. Ça coûtait une fortune. Puis là, on a donné au fédéral des compétences spéciales pour que, tassez-vous de là, le chemin de fer va passer, puis peu importe. Et vu le coût important, ben le fédéral signait avec les compagnies de chemin de fer des espèces de privilèges, notamment une exemption d'impôts. Donc, c'était dans un contrat, ça bénéficiait aux Canadiens Pacifiques. Et quand on a créé la Saskatchewan en 1905, donc on a adopté une loi constitutionnelle, là, c'est l'équivalent de la loi de 1867, mais c'est un complément. Et donc, dans ce complément...
Un addendum.
Dans ce complément de 1905, on intègre l'exemption fiscale en faveur des compagnies.
On l'a constitutionnalisé.
Bien sûr. On considère donc que c'est une condition essentielle à la création de la Saskatchewan. Et donc, en Saskatchewan, on va en finir avec cette exemption d'impôt. Et là, on a voté une résolution pour changer le texte. On utilise la procédure dite bilatérale. Donc, il faut juste qu'Ottawa vote la même résolution et ça va se concrétiser, comme au Québec pour l'abolition des commissions scolaires confessionnelles. Donc, ça devrait se régler vite et sans mélodrame, comme quoi c'est pas impossible de réviser la Constitution.
Encadrement des publicités électorales en Ontario maintenant, il y a une victoire du gouvernement Ford qui est à souligner.
Oui, alors c'est une saga qui s'est déroulée rapidement, mais où il y a plusieurs étapes. Donc, on met en place des...
Une saga rapide.
Oui, si je peux dire. On met en place des élections à date fixe dans plusieurs provinces. Je crois que c'est toutes les provinces sauf la Nouvelle-Écosse et le fédéral aussi. On a un système électoral qui se démarque des États-Unis où on veut pas que ce soit l'argent qui l'emporte. Donc, on encadre quand même très sévèrement qui peut dépenser à quel moment durant une campagne électorale. Donc, en Ontario, on se dit, maintenant qu'on connaît la date de l'élection à l'avance, ben on craint que, par un jeu de dépenses préélectorales massives, on vienne contourner l'esprit de la loi qui veut qu'il y ait une espèce de modèle de dépenses égalitaire. Et donc, on adopte une loi pour encadrer, grosso modo, là, pour ce qu'on appelle les tierces parties, mettons les syndicats, les associations de patrons, etc.
Ouais.
Eux, l'encadrement préélectoral des dépenses remonte à un an avant l'élection.
Oh.
Et pour les partis politiques, c'est 6 mois avant l'élection. Donc, c'est quand même un dispositif contraignant. Ça s'en va devant la Cour supérieure de l'Ontario.
C'est pas le cas ici au Québec, hein?
Ça pourrait venir.
C'est le 3 octobre 2022 qu'on va voter.
Exactement. On a un encadrement qui vaut que pour les jours avant l'élection.
Donc, on le voit, là, si on regarde, il y a des dépenses préélectorales importantes au Québec.
Mais oui, elle pourrait s'intensifier pour contourner l'exigence de la loi dans les prochains mois.
Exactement.
Donc, les syndicats contestent. Puis là, le juge Ed Morgan, il rend une première décision. Il dit ça, c'est contraire à la liberté d'expression. Ça va trop loin. Dans une société démocratique, pour s'exprimer, il faut pouvoir dépenser de l'argent. Un an avant l'élection, c'est déraisonnable. Qu'est-ce que fait le gouvernement Ford? Il réadopte sa loi et là, il met une dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne.
On aime ça.
Disposition de souveraineté parlementaire.
Ah, j'aime ça, oui.
Donc, il permet au fond au pouvoir politique de répliquer à la décision du juge puis dire, je comprends vos motifs, mais nous, c'est un choix politique assumé. Donc, nonobstant votre décision, nonobstant la liberté d'expression prévue par la Charte canadienne, on réadopte la même loi avec une dérogation à l'intérieur.
Comme c'est intéressant.
Et là, nouvelle contestation devant le même juge, là, Ed Morgan, par des syndicats qui contestent à nouveau. Mais là, cette fois, ils peuvent plus utiliser la liberté d'expression parce que la dérogation est en vigueur. Mais la dérogation, elle s'applique pas pour tous les droits de la Charte canadienne.
Non.
Et il y a un droit juste voisin qui s'appelle le droit de vote, juste à côté, à l'article 3.
Oui,
qui lui,
parce que c'est 7 à quoi?
2, 7 à 15.
Oui, 2, 7 à 15.
Donc, l'article 3 n'est pas visé par la dérogation. Donc, eux, ils disent, on va plaider le droit de vote, parce que le droit de vote, au fond, c'est les élections, puis ça, c'est de l'encadrement préélectoral. Okay. Et là, ça posait donc la question.
Juridique, on
exactement.
Aime ça. Oui.
Donc, décision importante, parce que jusqu'où va l'article 33? Est-ce que via le droit de vote, jusqu'où on peut tirer le droit de vote pour y faire intégrer... ramener la liberté d'expression par la porte d'en arrière. Puis éventuellement, dossier loi 21, c'est un peu la même chose. Hein?
Ah oui.
Est-ce que les tribunaux doivent contrôler l'exercice de la dérogation? C'est au cœur de la contestation sur la loi 21.
Beaucoup de réflexions là-dessus actuellement. il y en a qui disent qu'il faudrait limiter, comme dessiner une espèce de couloir ou un carré de sable là, pour la dérogation. Mais d'autres disent non, c'est quand l'Assemblée et quand les législatures le décident, c'est décidé.
Et c'est pour ça que ce qui s'est décidé en Ontario vendredi aura des conséquences importantes au Québec, notamment dans le dossier loi 21. Mmh. La décision du juge est très claire. Pas de contrôle de la dérogation, puis le droit de vote, la liberté d'expression, c'est des choses différentes, donc vous pouvez pas par la porte d'en arrière intégrer le droit dans le droit de vote la protection de la liberté d'expression à laquelle le législateur a voulu déroger. Donc une décision pro pouvoir politique, pro en faveur de sa capacité d'exercer son dernier mot, sa souveraineté parlementaire, mm-hmm. Qui est intéressante et qui arrive aussi dans un contexte où je parlais de la loi 21 au Québec, mais c'est pas tout. En janvier prochain, je crois que c'est dans la semaine du 17 janvier, notre propre loi qui encadre les dépenses électorales, là, on se souvient au début des je crois 2012, Bernard Drainville, le gouvernement de Pauline Marois avait limité à 100 $ par année le montant maximum d'un don à un parti politique. Et là, monsieur Maheu a probablement donné, il est allé à un cocktail de trop. Il a donné 100 $ de trop.
Oui.
Et là, il conteste la constitutionnalité de cette loi-là. Donc, la décision ontarienne ne porte pas sur la même question, mais elle aura peut-être une influence dans ce litige. Autre dossier un peu voisin, on a annoncé que l'âge limite du droit de vote allait lui aussi être contesté. Ce sont des jeunes adolescents de 12 à 18 ans qui considèrent que s'ils ont le droit de vote, si le droit de vote est garanti, le limiter pour les moins de 18 ans serait une atteinte déraisonnable à l'exercice du droit de vote.
Ben voyons.
Alors, un dossier qui sera à suivre. D'après moi, un très bel exemple... je pense qu'il faut préserver la marge de manœuvre du législateur. Là. Il est raisonnable de mettre certaines limites et cette limite-là devrait se défendre. Mais en même temps, on devrait peut-être ouvrir le débat politique.
Même si je suis d'accord, avec le vote des moins de 18 ans.
Là. Oui, exactement. Je pense qu'on est face à un dossier où
ça devrait être la Cour qui décide ça?
Ben, c'est ça. Pense que ce serait bien que le tribunal reconnaisse la marge de manœuvre des élus et ne se mêle pas de ce débat. Mais en même temps, ça serait bien que nos élus y songent sérieusement à réduire l'âge du droit de vote.
Ben oui.
On a un phénomène de décrochage civique dont on a déjà parlé ici. Si le vote pouvait s'exercer à l'école secondaire, tu sais, c'est grosso modo, moi j'irais même très loin, là, entre 14 et 18 ans, pouvoir voter une première fois pendant qu'on est étudiant au secondaire ou au cégep, pendant qu'on est scolarisé, pour que le vote soit sur les lieux même de l'école, pour que l'habitude de voter très jeune se... Mmh. Parce qu'une fois que l'habitude est créée, il y a plus de chances qu'elle perdure, alors que là, l'inverse est tout à fait
c'est ça.
Pervers. Là. Une fois qu'on on cultive l'abstention, c'est très rare qu'on va cultiver ensuite l'habitude de retourner. Mm-hmm.
Non, la politique, c'est le goût de l'avenir, comme disait Max Weber. Il faut envisager l'avenir le plus tôt possible dans notre vie, dans une vie. OK, merci beaucoup, Patrick.
Merci à toi.
On se reparle donc la semaine prochaine. Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Depuis près de 2 ans, avec la crise sanitaire, la demande d'aide alimentaire s'est accrue. D'ailleurs, le gouvernement annonce aujourd'hui une aide de 3 millions supplémentaires pour les banques alimentaires du Québec. On en parle avec, et de d'autres sujets aussi, avec le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Bonjour.
Bonjour, Antoine.
Donc, les banques alimentaires vous ont demandé de l'argent, plus d'argent. Pourquoi exactement?
En réalité, on a eu une très, très grande collaboration avant la pandémie, mais pendant la pandémie, là, parce que la demande a augmenté, puis on a eu à collaborer étroitement avec les banques alimentaires, puis ils nous ont fait part là, de leurs besoins en immobilisation. Alors aujourd'hui, cette annonce-là, là, c'est vraiment en lien avec un vœu qui a été exprimé là, par les banques alimentaires du Québec là, d'obtenir des fonds là, pour être en mesure d'améliorer leur infrastructure au point de vue d'entreposage là, dans différents sites.
Les banques alimentaires, ça devrait être une aide de dernier recours. Et là, ça devient de plus en plus fréquent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, comment dire, régler le problème à la base?
Bien, à la base, écoutez, il y a tous les enjeux d'avoir accès à un emploi, d'avoir accès à un revenu là, qui nous permet là, d'assurer nos besoins. Puis en même temps, les banques alimentaires, les gens qui vont faire affaire avec les banques alimentaires, souvent, c'est différents visages. Hein. Ça peut être des gens, oui, qui sont à faible revenu. Ça peut être des gens qui ont eu des changements importants au niveau de leur emploi. Ça peut être des gens qui ont eu des problèmes personnels et puis qu'ils sont comme dans un passage à vide. Alors, on a une large... Ça a plusieurs visages, si on veut, les gens là, qui vont utiliser le service des banques alimentaires.
Pourquoi la pandémie a fait qu'on a plus eu recours aux banques alimentaires?
Ben, il y a une question d'insécurité. Il y a plusieurs personnes qui ont laissé leur emploi ou qui n'avaient plus accès à un emploi. Oui, il y a eu différentes mesures de soutien du gouvernement et du gouvernement fédéral à ce niveau-là. Mais il y a toute la question de la précarité puis de l'insécurité. Puis on a vu une augmentation importante si on veut, au niveau des banques. Puis parallèlement à ça, on a eu des enjeux de main-d'œuvre dans les banques alimentaires. Fait que si on voit une augmentation un peu de la demande, avec des fois une difficulté à rendre, dans certains cas, là, à rendre le service, ben c'est comme un cocktail qui fait en sorte que ça devient peut-être difficile pour les gens d'avoir accès à ce dont ils ont besoin. Là.
3 millions, c'est pas un montant énorme. Ça va aider, vous dites, à améliorer les installations. En quoi exactement?
Ben écoutez, il y a plusieurs succursales, hein, qui est le même site des banques alimentaires de Moisson Québec là, sur le territoire. Et puis, le 3 millions, dans un moment, il y a une partie que ça va permettre de déterminer comme il faut les besoins. Après ça, il y a une autre partie qui vient directement en soutien. Là, c'est les banques alimentaires qui vont prioriser les besoins un peu partout sur le territoire. Puis ça se situe dans un continuum d'accompagnement du gouvernement là, auprès des banques alimentaires. Là.
OK. Parlons de morcellement des terres agricoles maintenant, parce que c'est la dernière semaine de travaux parlementaires, puis dans le projet de loi 103 qui est discuté actuellement, c'est un projet de loi sur l'allègement réglementaire, ça permettrait un certain morcellement des terres agricoles, puis ça fait peur à bien du monde. Là, je regardais, écoutez, il y a l'UPA, l'Union paysanne, l'Institut Jean Garon, Équiterre, la Fédération de la relève agricole. Donc, il y a comme une espèce de barrage contre cette mesure-là. Allez-vous bouger? Expliquez-moi pourquoi il faut favoriser un certain morcellement des terres agricoles.
Ben, je dirais, dans un premier temps, le projet de loi a été adopté là, vendredi passé, puis il va être sanctionné par le lieutenant-gouverneur. Il faut comprendre que c'est un nombre limité de mesures qui étaient insérées là, dans un projet de loi plus large de ma collègue, ministre déléguée à l'économie. Puis les mesures très, très chirurgicales là, qu'on a adoptées s'inscrivent là, dans la continuité là, des recommandations du rapport Pronovo, là, le rapport sur la commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec, le rapport Ouimet, le rapport de la commission d'agriculture, des pêchers, d'énergie et des ressources naturelles de 2015 là, de l'Assemblée nationale, et puis les travaux de la CPTAQ là, qu'elle a fait en 2017. Alors, c'est vraiment des mesures très, très ciblées là, qui vont vraiment en lien avec plusieurs recommandations là, qui avaient été faites dans le passé. Là.
Comment vous expliquez l'opposition de l'UPA et des autres organismes que j'ai cités?
Bien, je vous dirais, première des choses, il y a un travail qui a été fait là, de concert avec l'UPA, de concert avec la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la CMM, et puis vraiment un travail d'avril 2019 là, jusqu'à récemment. Après ça, il y a eu le dépôt des textes de loi. Il y a pu avoir des incompréhensions ou peut-être manque de clarté là, par rapport à certaines dispositions qui touchaient justement là, les possibilités d'avoir davantage de possibilités de morceler des terres. Mais on a apporté là, des amendements lors de l'étude du projet de loi là, qui viennent faire en sorte que c'est très, très circonscrit, Antoine, les ouais. mesures qu'on a posées. Là, c'est pas quelque chose là, qui est partout, à toutes les limites sur le territoire. Ça va toujours être sur un dossier à la fois étudié par les commissaires et la CPTAQ. Et puis aussi, c'est à la demande de la CPTAQ là, qu'on a apporté ces outils additionnels-là pour qu'eux fassent leur bon
Quels
travail.
Sont-ils les outils, pour être plus précis, là, parce que...
Ben, c'est au niveau de l'interprétation de la loi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un territoire agricole, mais pour que le territoire agricole soit en santé et qu'on puisse le protéger, ben, ça prend des entreprises agricoles qui sont en santé sur le territoire. Et puis, les outils, c'est des critères au niveau de l'interprétation de la loi qui va permettre aux commissaires de la commission de pouvoir apprécier à leur juste valeur des projets qui, autrement, ce serait difficile là, de pouvoir aller de l'avant avec certains projets. Alors, ça vient refléter un peu l'évolution que notre agriculture a eue depuis une vingtaine d'années, où on a aujourd'hui différents modèles, différents types d'agriculture, et puis il faut être en mesure là, d'en tenir compte quand il y a des demandes qui sont faites là, auprès de la CPTAQ.
Là. Mais là, ceux qui craignaient ces changements-là disent que ça aurait pour conséquence de faire augmenter les prix parce que plus les lots sont petits, plus il y a morcellement, plus il y a des prix élevés. Est-ce que c'est déjà pas un problème, le coût des terres agricoles au Québec?
Bien, la question de la valeur des terres agricoles ou l'augmentation des terres agricoles, Antoine, c'est multiple, là, les déterminants dans tout ça. Là. Et puis de faire en sorte que certains projets puissent avoir accès à des plus petites portions de terre. Encore là, on n'est pas dans quelque chose qui est à tapisser mur à mur à la grandeur du Québec. Fait, honnêtement, les
OK, ça va toucher certains. Ça va toucher certaines régions en particulier, lesquelles?
Non, c'est sur des projets. C'est okay. des projets qui sont présentés par des agriculteurs aux quatre coins du Québec. Ça va donner davantage de outils à la commission pour être capable d'apprécier, un, la qualité de ces projets-là, la pérennité de ces projets-là, puis dans des contextes où ces projets-là sont jugés comme étant viables et puis qui ont besoin de terres plus petites, si on veut, bien, il y a des possibilités pour la commission là, d'aller de l'avant avec de tels projets. Mais encore là, on ne parle pas de centaines et de milliers de projets. Là. C'est toujours du cas par cas, un à un. Là.
OK. Donc, la crainte de favoriser l'étalement urbain chez plusieurs, elle est non fondée. C'est ce que vous me dites.
Ben, je vous dirais que notre grande motivation en faisant ces changements-là, c'est vraiment de favoriser l'étalement agricole. Alors, on n'est pas dans les mêmes concepts. Là. C'est vraiment le dynamisme de notre territoire agricole, puis la pérennité de nos entreprises agricoles, puis de nos activités agricoles.
Là. Dernière question sur un autre sujet en terminant. La loi 101 au Cégep, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, bien, écoutez, j'ai mon collègue là, qui pilote un projet, là, qui est le projet de loi 1996, là, que je soutiens. Là.
OK, mais vous n'avez pas d'opinion bon. Sur l'idée d'appliquer bon, la loi 101 au Cégep?
C'est pas quelque chose que j'ai changé, partagé avec vous, là, Antoine.
OK, parfait. C'est dans un autre dossier.
Oui, oui. Nous, on a nos jeudis agricoles. C'est rendu des lundis agricoles maintenant.
Bien, on les fait quand on peut. Je suis
disponible pour en parler avec vous. Là.
Quand on peut vous attraper sur l'autoroute.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup, André Lamontagne. Et c'est tout pour La Hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.